Alexandre Dumas, Henri IV, chapitre 4. Il y avait donc à Montmartre une abbaye, et dans cette abbaye une demoiselle de la Bourdésière. Cette demoiselle de la Bourdésière, qui sans doute à ses armes représentant un bras semant une poignée de vesse, avait ajouté comme devise « Bon sang ne peut mentir ». Cette demoiselle, de la Bourdésière par sa mère et de Beauvilliers par son père, avait à peine 17 ans, étant née le 27 avril 1574. Elle avait été élevée au monastère de Beaumont-les-Tours, près de sa tante Anne Babou de la Bourdésière, abbesse du monastère de Beaumont-les-Tours. Sa vocation, dit naïvement l'historien, qui nous fournit ces détails sur l'intéressante personne dont nous nous occupons à cette heure, sa vocation n'était pas le couvent. À la mort de son père, il y avait dans la maison 3 garçons et 6 filles. Elle avait donc, la pauvre enfant, été mise en religion pour faire à ses frères une meilleure part dans la fortune paternelle. Henri avait tant d'esprit qu'il n'eut pas grand-peine à persuader à mademoiselle, ou plutôt à madame de Beauvilliers, on appelait les religieuses madame, qu'il y avait quelque chose de par le monde plus agréable que de servir la messe et de chanter vêpres. Elle crut Henri et partit pour Senlis. Mais le siège. Ah, pardieu, Henri IV se moquait pas mal de Paris quand il s'agissait d'une belle jeune fille de 17 ans. Voyez plutôt ce que dit un auteur presque contemporain. Si ce prince fût né roi en France et roi paisible, probablement ce n'eût pas été un grand personnage. Il se fût noyé dans les voluptés, puisque malgré toutes ses traverses, il ne laissait pas, pour suivre ses plaisirs, d'abandonner les plus importantes affaires. Après la bataille de Coutras, au lieu de poursuivre ses avantages, il s'en va badiner avec la comtesse de Guiche et lui porte les drapeaux qu'il a gagnés. Durant le siège d'Amiens, il court après madame de Beaufort, sans se tourmenter du cardinal d'Autriche, depuis l'archiduc Albert, qui s'approchait pour tenter le secours de la place. Il en résulte que Sigogue fit contre lui cet épigramme. « Ce grand Henri, qui voulait être l'effroi de l'Espagnol hautain, essuie le... d'une... » Ma foi, cher lecteur, reconstruisez le dernier vers comme vous pourrez. La rime qui est riche vous y aidera. Il partit donc pour Senlis avec sa belle religieuse, ce bon Béarnais, ce spirituel Henri. Bayle a dit de lui dans son dictionnaire « Si on l'eût fait eunuque, il n'eût point gagné les batailles de Coutras, d'Arc et d'Ivry. » Les Narcès sont rares et l'histoire ne nous a montré qu'une seule fois cette grande exception. Malheureusement pour elle, la pauvre religieuse avait cédé un peu vite. Henri IV ne lui sut pas gré de sa faiblesse. Il vit une autre femme qui descendait aussi de la Bourdésière, et madame de Beauvilliers fut oubliée. Oubliée comme maîtresse, mais non comme amie, rendons cette justice à Henri IV, car en 1597, on retrouve une charte où l'ancienne maîtresse du vainqueur d'Ivry prend le titre d'abbesse, dame de Montmartre, des Porcherons et de Fort aux Dames. Elle mourut le 21 avril 1650, à l'âge de 80 ans. Nous voici arrivés à la plus populaire des maîtresses d'Henri IV, à Gabrielle d'Estrées. Deux choses ont contribué à cette popularité. La ravissante chanson, intitulée « Charmante Gabrielle », le mauvais poème de la Henriade. De la fameuse chanson, il n'y a qu'un couplet qui soit réellement de Henri IV. Il le fit en partant pour un de ses nombreux voyages. Le voici. Charmante Gabrielle, je vous fais mes adieux. La gloire qui m'appelle m'éloigne de vos yeux. Fatale départie, malheureux jour, que ne suis-je sans vie ou sans amour? Quant au portrait de Gabriel par Voltaire, le voici. Détré était son nom, la main de la nature de ses aimables dons la combla sans mesure. Telle ne brillait point au bord de l'Eutotasse la coupable beauté qui trahit Ménélas. Moins touchante et moins belle, à Tars on vit paraître celle qui, des Romains, avait dompté le maître, lorsque les habitants des rives du Cydnus, l'encensoir à la main, la prirent pour Vénus. Il y a ici une petite erreur. Antoine ne fut jamais le maître des Romains. Ce fut Auguste. Et Cléopâtre, dont il est ici question, se fit au contraire mordre par un aspic, attendu qu'elle n'avait pas pu dompter Auguste, véritable maître des Romains. Au reste, d'après un portrait original de la belle Gabrielle qui avait appartenu à Gaston, frère de Louis XIII, c'est-à-dire à un des fils de Henri IV, ou plutôt de Marie de Médicis, nous dirons plus tard qu'elle fut le père probable de Gaston, Gabrielle avait une des plus ravissantes têtes du monde, des cheveux blonds et en quantité, des yeux bleus et d'un brillant à éblouir, un teint de lys et de rose, comme on disait alors, et comme quelques-uns disent encore de nos jours. Porchère a loué les cheveux et les yeux, et Guillaume de Sablé le reste. Sur les cheveux de la belle Détré. Doux chaînon de mon prince, agréable supplice, blonds cheveux, si je loue ici votre beauté, on jugera mes vers pour être vos complices, criminels comme vous, de lèse majesté. Maintenant, voici un sonnet qui eut le bonheur de jouir pendant 10 ans d'une énorme célébrité. S'il y avait eu une académie à cette époque, Porchère en était de bon gré ou de force, comme en fut Monsieur de Saint-Aulaire pour son quatrain. Lisez ce sonnet, cher lecteur, et prenez par lui une idée de l'esprit de ce temps. Sur les yeux de Madame la Duchesse de Beaufort. Ce ne sont point des yeux, ce sont plutôt des dieux. Ils ont dessus les rois la puissance absolue. Dieu ? Non, ce sont des cieux. Ils ont la couleur bleue et le mouvement prompt comme celui des cieux. Cieux ? Non, mais deux soleils clairement radieux dont les rayons brillants nous offusquent la vue. Soleil ? Non, mais éclairs de puissance inconnue des foudres de l'amour, signe présagieux. Car s'ils étaient des dieux, feraient-ils tant de mal? Si des cieux, ils auraient leur mouvement égal. Deux soleils ne se peut, le soleil est unique. Éclair, non, car ceux-ci durent trop et trop clair. Toutefois, je les nomme, afin que je m'explique, des yeux, des dieux, des cieux, des soleils, des éclairs. Après le quatrain sur les cheveux, après le sonnet sur les yeux, passons au vers qui traite de la généralité des perfections de la belle Gabrielle. Ces derniers vers sont, comme nous l'avons dit, de Sablé. Mon œil est tout ravi quand il voit et contemple ces beaux cheveux aux reins qui ornent chaque temple, son beau et large front et sourcils et bénins, son beau nez décorant et l'une et l'autre joue sur lesquels l'amour à toute heure se joue. Et ses deux brillants yeux, deux beaux âtres bénins. Heureux qui peut baiser sa bouche cinabrine, ses lèvres de corail, sa denture ivoirine, son beau double menton, l'une des 7 beautés, le tout accompagné d'un petit riz folâtre. Une gorge de lys sur un beau sein d'albâtre, où 2 globes charmants sont assis et plantés. Mon Dieu, qu'il fait beau voir sa main blanche et polie, ses beaux doigts longs, perleux, et qui plus embellit de riches diamants et rubis précieux. Sa belle taille aussi ne doit être oubliée, avec la bonne grâce à la taille alliée, et ses petits pieds faits pour le parquet des dieux. Gabrielle était née vers l'an 1575. Elle n'avait point encore paru à la cour quand Henri la rencontra dans une de ses excursions aux environs de Senlis. Elle habitait le château de Coeuvres, et ce fut dans la forêt de Villers-Cotterêts qu'il la rencontra. De Moustier a consacré l'endroit traditionnel où cette rencontre eut lieu, en gravant sur un hêtre, ni plus ni moins qu'un berger de Virgile ou un héros de l'Arioste, les 5 vers suivants. Ce bois fut l'asile chéri de l'amour autrefois fidèle. Tout l'y rappelle encore, et le cœur attendri soupire en se disant « C'est ici que Henri soupirait près de Gabriel. » Je suis peut-être aujourd'hui le seul homme de France qui se souvienne de ces vers. C'est que, tout enfant, ma mère me les a fait lire sur l'arbre où ils étaient gravés, en me disant ce que c'était que Henri, que Gabriel et que de Moustier. Il y avait quelques doutes sur la naissance de Gabriel. Elle était bien née pendant le mariage de M. Détrée avec sa mère, mais il y avait, quand elle naquit, 5 ou 6 ans déjà que Mme Détrée s'en était allée avec le marquis d'Allègre, dont elle partagea la mort tragique. Les habitants d'Issoire, qui tenaient pour la Ligue, ayant appris que, dans un hôtel de la ville, logeaient un seigneur et une dame qui tenaient pour le roi, se soulevèrent et poignardèrent le marquis et sa maîtresse, puis les jetèrent tous deux par les fenêtres. Cette dame Détrée était aussi une Labourdésière. Cette Madame Détrée eut 6 filles et 2 fils. Les 6 filles furent Madame de Beaufort, Madame de Villars, Madame de Nant, la comtesse de Sauzay, l'abbesse de Maubuisson et Madame de Balagny. Cette dernière est la Délie de Lastrée. Elle avait, dit Allemand des Réaux, la taille un peu gâtée, mais c'était la plus galante personne du monde. Ce fut d'elle que M. d'Épernon eut l'abbesse Sainte-Glossine de Metz. On les appelait, elles et leurs frères, le second fils était mort, les 7 péchés mortels. À la mort de Madame de Beaufort, Madame de Neuvy avait fait sur son enterrement qu'elle avait vu des fenêtres de Madame de Bar le 6 suivant. « J'ai vu passer par ma fenêtre les 6 péchés mortels vivants, conduits par le bâtard d'un prêtre, qui, tous ensemble, allaient chantant « Un requiescat in passé » pour le 7e trépassé. » Mais si jeune que fût la belle Gabrielle, son cœur, à ce que l'on assure, avait déjà parlé, et son cœur avait obéi à la voix de son cœur. C'était pour Roger de Saint-Lary, célèbre sous le nom de Bellegarde, grand écuyer de France, et qu'en sa qualité de grand écuyer, on appelait Monsieur le Grand tout court. C'était un des hommes les mieux faits et les plus aimables de la cour. Par malheur pour lui, il était aussi un des plus indiscrets. Comme le roi Candolle, il ne put tenir sa langue. Il vanta si fort à Henri IV la beauté de sa maîtresse que celui-ci l'a voulu voir. Il vint, la vit et l'aima. C'était le pendant du Veni, Vidi, Vici de César. Aussi, le premier enfant qui résulta de ses amours fut-il appelé comme le vainqueur de Farsal. Gabriel le voulait appeler Alexandre, mais Henri secoua la tête. « Non, non, dit-il, on n'aurait qu'à l'appeler Alexandre le Grand. » Gabriel rougit et n'insista point. Nous avons dit qu'on appelait le grand écuyer Monsieur le Grand. Par bonheur pour Bellegarde, la belle Gabrielle n'était point aussi rancunière que cette belle reine de Libye qui fit tuer son mari par son amant parce que son mari la lui avait montrée nue. Non, au contraire, garda-t-elle toute sa vie pour Bellegarde des sentiments de tendresse qui firent damner Henri IV. Plus de 10 fois, dans ses moments de colère, il s'écria « Ventre Saint-Gris, ne trouverai-je personne pour me débarrasser de ce damné Bellegarde ?» Mais 5 minutes après, « Eh, disait-il, vous qui avez entendu ce que je viens de dire, gardez-vous bien de le faire. » Cette jalousie qui le tourmenta pendant les 9 ou 10 années que dura sa liaison avec Gabriel date du commencement de cette liaison. Nous avons vu comment Henri avait connu Gabriel par l'entremise de Bellegarde. La première chose que fit Henri IV fut d'emmener Gabriel à Mantes, où était la cour, et de défendre à Bellegarde de l'y suivre. L'amant éploré fut forcé d'obéir. Mais Mademoiselle Détrée trouva le procédé tyrannique. Un matin, elle déclara à son royal poursuivant, car on prétend que le roi n'était point son amante encore, elle déclara, disons-nous, à son royal poursuivant, que sa conduite n'était point délicate, et que, s'il l'aimait véritablement, comme il lui faisait l'honneur de le lui dire, il ne s'opposerait point à l'établissement avantageux qu'elle trouvait près de Bellegarde, lequel lui offrait de l'épouser. Après quoi, elle se retira. Henri resta pensif. À quoi pensait-il ? À lui offrir ce qu'il offrait toujours, le mariage. Mais l'offre ne semblait jamais tout à fait sérieuse. Henri était marié à Marguerite, et si peu qu'il le fût, il était toujours beaucoup, tant que son divorce n'était pas prononcé. Il réfléchissait encore à ce qu'il pourrait dire à Gabrielle pour la retenir près de lui, quand on vint lui annoncer que Gabrielle était partie pour Queuvres. Par malheur, Gabrielle avait juste choisi un jour où elle savait que Henri ne pouvait la poursuivre. Mais il lui envoya un message avec ces seuls mots « Attendez-moi demain ». En effet, étourdi, tremblant, désespéré, fou d'amour, comme aurait pu l'être un amant de 20 ans, il se résolut coûte que coûte à l'aller reprendre. Il y avait plus de 20 lieues à faire et 2 armées ennemies à traverser. Jamais César, dit l'historien auquel nous empruntons ces détails, ne risqua tant pour aller d'Apollonie à Brinde que Henri lorsqu'il alla de Mantes à Queuvres. Il partit à cheval avec 5 amis seulement, puis à 3 lieues de Queuvres, probablement à Verberie. Voyant les routes de la forêt de Compiègne gardées par l'ennemi, il mit pied à terre, revêtit les habits d'un paysan, mit un sac plein de paille sur sa tête et se rendit au château. Il avait passé près de 20 patrouilles françaises et espagnoles qui étaient bien loin de se douter que ce prétendu paysan portant un sac de paille était un amoureux allant voir sa maîtresse et que cet amoureux était le roi de France. Toute prévenue qu'elle était de l'arrivée du roi, Gabrielle, ne croyant pas qu'il fût capable d'une pareille folie, ne voulait pas le reconnaître et, lorsqu'elle le reconnut, elle jeta un grand cri, ne trouvant à la suite de ce cri autre chose à lui dire que cette phrase peu gracieuse. « Oh, sire, vous êtes si laid que je ne saurais vous regarder !» Par bonheur pour le roi, Gabrielle avait à ses côtés la marquise de Villars, sa sœur. Gabrielle retirée, la marquise resta avec le roi et essaya de lui persuader que la crainte d'être surprise par son père avait seule fait retirer Mademoiselle d'Étrée. Mais il fallut bien que le roi prît cette raison pour ce qu'elle valait quand il vit que Mademoiselle d'Étrée ne reparaissait point. Or, quelques instants que l'on fit près de Gabrielle, elle ne voulut point reparaître, et force fut à Henri de repartir comme il était venu, sans tirer autre chose que ce fruit vert et acide de l'action la plus périlleuse qu'il eût jamais hasardée et dans laquelle il avait risqué son salut, celui de ses amis, celui de sa couronne et celui de la France. Et ce qu'il y a de plus étonnant dans tout cela, dit Almandéréo, c'est qu'il n'était point grand abatteur de bois. Madame de Verneuil l'appelait le capitaine bon vouloir et l'on disait de lui que son second avait été tué. Son absence avait causé un grand effroi à la cour, surtout quand on avait appris le but de son voyage et à travers quel péril il s'accomplissait. Aussi Sully et Mornay, son Sénèque et son Burrus, l'attendaient-ils pour le morigéner d'importance. Henri IV courba la tête comme il avait l'habitude de le faire, mais moins cette fois sous les reproches de ses 2 rudes amis que sous l'insuccès de l'aventure. Il ne s'en tira qu'en jurant sa foi de gentilhomme qu'il ne recommencerait pas, et il prit en effet ses mesures pour n'avoir point besoin de recommencer. Afin d'engager Gabrielle à venir à la cour, il manda son père sous prétexte de le faire entrer dans son conseil. Mais M. d'Étrée vint seul. Un second prétendant s'était mis sur les rangs, offrant lui aussi d'épouser. C'était le duc de Longueville. Gabrielle aimait Bellegarde pour le plaisir de l'amour. Elle fit semblant d'aimer Longueville pour l'espoir de l'ambition. Le duc de Longueville s'aperçut à la fois du jeu que jouait Gabrielle et du danger qu'il courait, Gabrielle étant aimée à ce point du roi, qu'il s'effraya de rester de moitié dans son jeu. Il feignit de lui renvoyer ses lettres et lui demanda les siennes. Gabrielle les lui renvoya loyalement depuis la première jusqu'à la dernière. Mais en passant la revue de ses lettres à elle, elle s'aperçut qu'il lui en manquait 2 et des plus compromettantes. Par bonheur, quelques jours après, le duc, faisant son entrée à Doullens, il lui fut tiré une salve d'honneur. Par hasard, un des mousquets était chargé à balle, et par hasard toujours, cette balle traversa le corps du duc et le tua roide. L'exemple profita à Bellegarde. Il résolut de ne se brouiller ni avec un roi si amoureux, ni avec une maîtresse si chanceuse, et, ayant appris que M. d'Étrée s'occupait de marier sa fille à Nicolas d'Arvemal, seigneur de Liancourt, il s'effaça prudemment, quitte à reparaître plus tard. Gabriel jeta les hauts cris à la vue de son prétendant. L'esprit était méchant et le corps vilain. Elle eut recours à Henri IV, auquel elle essaya de faire accroître que son dégoût pour le seigneur de Liancourt venait de l'attraction qu'elle ressentait pour lui. Henri, qui n'était pas bien convaincu de l'attraction, n'osa point se déclarer contre ce mariage qui paraissait être le grand désir de M. d'Étrée. De son côté, Gabriel continuait d'appeler le roi à son secours. Henri prit un milieu et promit de paraître le jour des noces comme le dieu de la machine antique et de mettre la nouvelle épousée à l'abri des tentatives de son époux. Malheureusement, le jour des noces, il était indispensablement occupé ailleurs, de sorte qu'il laissa à Gabriel tout le soin et en même temps toute la difficulté de se défendre contre son mari. Cependant, M. de Liancourt n'avait encore rien obtenu d'elle. Gabriel le jura du moins lorsque Henri, étant parvenu à se rapprocher de Coeuvres, donna l'ordre à M. de Liancourt de le venir joindre à Chauny avec sa femme. Le mari avait bonne envie de désobéir, mais il réfléchit au risque qu'il courait à agir ainsi. Puis il espéra peut-être qu'il y avait toute une fortune et tout un avenir à se rendre à l'invitation qu'il avait reçue. Il amena donc sa femme à Chauny. Le roi avait ses équipages prêts. Il partait pour le siège de Chartres. Sans plus s'inquiéter du mari que s'il n'existait pas, sans même l'inviter à accompagner sa femme, il fit monter Gabrielle dans son coche, monta près d'elle et partit, emmenant cette bonne marquise de Villars, qui avait fait de son mieux à Coeuvres pour lui faire oublier la façon dont il était reçu, et Madame de la Bourdaisière, sa cousine. Madame de Sourdis, tante de Gabrielle, qui craignait quelques nouvelles sottises de sa nièce, vint les y rejoindre. Les conseils que donna à sa nièce cette excellente tante ne furent point étrangers au bonheur de Henri. Aussi Henri récompensa-t-il la femme en nommant, une fois la ville prise, le mari au gouvernement de Chartres. Une seule chose troublait Henri IV dans ses amours, sa jalousie contre Bellegarde. Les deux jeunes gens avaient beau se surveiller eux-mêmes avec la plus scrupuleuse attention, on n'aime pas sans que, du feu d'amour si bien caché qu'il soit, il ne jaillisse au dehors quelque étincelle. Henri IV, un jour, les regardait danser ensemble. Lui les voyait, eux ne le voyaient pas. Il secoua la tête à leur façon de se donner la main et murmura entre ses dents. « Ventre Saint-Gris, il faut qu'il soit serviteur et maîtresse !» Il voulut s'en assurer. Il prétexta une entreprise qui devait le tenir dehors toute la nuit et la journée du lendemain, partit à 8 heures du soir et revint à minuit. Le roi ne s'était pas trompé. À son retour, Gabriel et Bellegarde étaient ensemble. Tout ce que put faire la rousse, confidente de Gabriel, ce fut, pendant que sa maîtresse allait ouvrir au roi, de faire cacher Bellegarde dans un cabinet où elle couchait, près du lit de sa maîtresse. Après quoi elle sortit, emportant la clé. Le roi prétendit qu'il avait faim et demanda à souper. Gabrielle s'excusa sur ce qu'elle n'attendait point le roi et n'avait rien fait préparer. « Bon, dit le roi, je sais que vous avez des confitures dans ce cabinet. Je mangerai des confitures et du pain. » Gabrielle fit semblant de chercher la clé. La clé ne se trouva point. Henri ordonna de chercher la rousse. La rousse n'était nulle part. « Allons, dit le roi, je vois bien qu'il faudra, si je veux souper, que j'enfonce la porte. » Et il se mit à frapper dans la porte à grands coups de pied. La porte allait céder quand la rousse entra, demandant pourquoi le roi faisait tout ce bruit. « Je fais tout ce bruit, dit le roi, parce que je veux manger des confitures qui sont dans ce cabinet. » Mais pourquoi le roi, au lieu d'enfoncer la porte, ne l'ouvre-t-il pas tout simplement avec la clé ?
Ventre saint gris, dit le roi. Pourquoi ? Pourquoi ?
Parce que je n'ai pas la clé.
La voilà, dit Larousse. Et, rassurant sa maîtresse d'un coup d'œil, elle donna la clé au roi.
Le roi entra, le cabinet était vide. Bellegarde avait sauté par la fenêtre. Le roi sortit, l'oreille basse, et tenant un pot de confiture de chaque main. Gabrielle joua le désespoir. Henri tomba à ses pieds et lui demanda pardon. La scène a servi de modèle depuis à Beaumarchais pour son second acte du mariage de Figaro. Plus tard, quand Henri voulut épouser Gabrielle, M. de Pralin, capitaine des gardes du corps et depuis maréchal de France, pour empêcher son maître de faire une sottise qui lui eût aliéné l'estime de tous ses amis, lui offrit de lui faire surprendre Bellegarde dans la chambre de Gabrielle. C'était à Fontainebleau. Le roi se leva, s'habilla, prit son épée et suivit M. de Pralin. Mais au moment où celui-ci frappait à la porte pour se faire ouvrir, Henri IV lui arrêta le bras.
« Ah, par ma foi, non, dit-il, cela lui ferait trop de peine. » Et il rentra chez lui.
Le bon roi est surtout le digne homme que ce brave et spirituel Béarnais. Au milieu de tout cela, le roi était entré à Paris après un siège de 4 ans, pris, interrompu, repris. On sait les détails horribles de ce siège qui est un nouvel exemple que les haines religieuses sont bien autre chose que les haines politiques. D'abord, ce fut M. de Nemours qui fit sortir de Paris les bouches inutiles. Henri, en voyant ses pauvres chassés, havres, suppliants, affamés, eut pitié d'eux. « Laissez-les passer, dit-il aux avant-postes qui les repoussaient. Il y a pour eux des vivres dans mon camp. » Il mourait à Paris 1000 personnes de faim par jour, car Henri s'était emparé de tous les faubourgs. On essaya de faire du pain avec des os de mort pilés. Cette nourriture redoubla la mortalité. Henri se désespérait de voir que, malgré cette extrémité, Paris ne voulait pas se rendre. M. de Gondi, archevêque de Paris, fut pris de pitié pour ses ouailles. Il se présenta au camp du roi, qu'il trouva entouré de toute sa noblesse, et, comme il se plaignait de ne pouvoir se faire un jour au milieu de ses rangs, « Ventre saint gris, monsieur, dit le Béarnais, si vous la voyez un jour de bataille, elle me presse bien autrement. » Le résultat de cette conférence fit de nouveau ressortir l'esprit et le cœur de Henri. Comme M. de Gondi lui peignait la famine, mais en même temps le fanatisme auquel Paris était en proie, et lui disait qu'il n'aurait Paris que quand le dernier soldat en serait tué et quand le dernier bourgeois en serait mort. « Ventre saint gris, monsieur, dit-il, il n'en sera pas ainsi. Je suis comme la vraie mère de Salomon, j'aime mieux n'avoir point Paris que de l'avoir en lambeaux. » Et le même jour, il ordonna qu'on fît, de sa part et en son nom, entrer des charrettes de vivres dans Paris. Le fanatisme, comme l'avait dit l'archevêque, était si grand que, malgré cette action sans exemple dans l'histoire des guerres, et surtout dans l'histoire des guerres civiles, ce ne fut que 3 ans après que Henri entra dans sa capitale. Encore y entra-t-il par surprise. Il avait mis dans ses intérêts le gouverneur Brissac, la plupart des échevins et tout ce qui restait du Parlement. Le 22 mars fut choisi pour cette entrée. Le prévôt des marchands, l'huilier et 3 échevins, Langlois, Néré et Beaurepaire, rassemblèrent autour d'eux leurs parents et leurs amis, chassèrent les Espagnols de leur corps de garde et s'emparèrent des portes Saint-Denis et Saint-Honoré. Le roi leur avait donné le signal par une fusée tirée de Montmartre. Il fit son entrée 2 heures avant le jour, sans opposition aucune. L'armée royaliste se répandit dans la ville, en occupa les principaux postes, si bien qu'à leur réveil, les Parisiens, même les plus fanatiques, se trouvèrent hors d'état de faire aucune résistance. Cependant, les plus fidèles se taisaient encore ou restaient chez eux, quand tout à coup des hommes, portant des drapeaux blancs, tenant leurs chapeaux à la main, parcoururent toutes les rues en criant « Pardon, général !» Alors ce ne fut qu'une clameur dans Paris. La ville tout entière éclata dans un immense cri de « Vive le roi !»
Henri avait consenti à abjurer. On connaît le fameux mot devenu proverbe « Paris vaut bien une messe ». Sa première visite fut donc à Notre-Dame. Un cortège immense le suivit. Les gardes voulaient écarter la foule. « laissez approcher !» cria Henri. « Ne voyez-vous pas que tout ce peuple est affamé de voir son roi ?» Et le roi arriva sans accident à Notre-Dame et, sans accident, se rendit de Notre-Dame au Louvre. Gabriel, qui suivait le roi, fut d'abord installée à l'hôtel du Bouchage, attenant au palais. C'est chez elle que, 5 mois après, Henri faillit être assassiné par Jean Châtel. Le roi recevait 2 gentilshommes qui s'étaient agenouillés pour lui rendre leur devoir. Au moment où il se baissait pour les relever, il se sentit frappé d'un coup violent à la lèvre. D'abord, il crut que c'était sa folle Mathurine qui, par maladresse, l'avait heurté. « Au diable soit la folle, dit-il, car elle m'a blessé. » Il avait les lèvres fendues et une dent cassée. Mais elle, courant à la porte et la fermant, « Non, non, mon père, dit-elle, ce n'est pas moi, c'est lui. » Et elle montra un jeune homme qui se cachait dans les rideaux d'une fenêtre. Les 2 gentilshommes s'élancèrent sur lui, l'épée à la main. « Ne lui faites point de mal, cria Henri IV, ce ne peut être qu'un fou. » Le roi ne se trompait que de bien peu, c'était un fanatique. Le jeune homme fut arrêté et l'on trouva sur lui le couteau dont il venait de frapper le roi. Il se nommait Jean Châtel, était le fils d'un riche marchand drapier et étudiait au collège de Clermont. Loin de nier son crime, il s'en vanta, déclara qu'il avait agi de son propre mouvement et par zèle pour la religion, persuadé qu'il était qu'on pouvait tuer tout roi non approuvé par le pape. Puis il ajouta qu'il avait particulièrement un crime à expier aux yeux du Seigneur et que le sang d'un hérétique lui avait paru une expiation qui devait être agréable à Dieu. Quel était ce crime? Celui pour lequel Dieu foudroya Onan. Le roi avait bien raison de dire que Jean Châtel était un fou. La punition fut terrible. Les jésuites furent chassés de France comme corrupteurs de la jeunesse, perturbateurs du repos public, ennemis du roi et de l'État. Le père Guignard, chez lequel on trouva des édits séditieux, fut pendu. Son cadavre fut jeté au feu, ses cendres furent éparpillées au vent. Jean Châtel subit le supplice des régicides. On lui lia dans la main le couteau dont il s'était servi pour commettre le crime et on lui coupa la main. Puis il fut tenaillé et tiré à 4 chevaux. Puis son corps fut consumé dans un bûcher et ses cendres, comme celles du père Guignard, furent jetées au vent. Enfin, sa maison, qui était devant le palais de justice, fut rasée et l'on éleva sur son emplacement une pyramide à 4 faces portant sur chacune d'elles l'arrêt du Parlement et des inscriptions grecques et latines. Cette pyramide fut abattue par ordre du petit-fils de Henri IV, Louis XIV, en 1705, à la sollicitation des jésuites qui venaient de rentrer en France. Le prévôt des marchands, François Miron, fit, au lieu et place de cette pyramide, établir une fontaine qui fut depuis transférée dans la rue Saint-Victor. Les félicitations arrivèrent de tous côtés au roi. Discours, adresses, imprimés, manuscrits en prose et en vers. Parmi ces derniers, il y en avait un qui le fit songer longtemps. Il était de Daubigné, resté ardent calviniste, malgré l'abjuration de son roi. Le voici. Au roi, quand ta bouche renoncera, ton Dieu la percera, punissant le membre coupable. Quand ton cœur, déloyal moqueur, comme elle sera punissable, alors Dieu percera ton cœur. » Cette menace devint une prophétie que, 16 ans plus tard, Ravaillac se chargea d'accomplir. Terminons par une anecdote. Elle clôt admirablement l'entrée de Henri IV à Paris. Le jour même de cette entrée, il se présenta chez sa tante, Madame de Montpensier, ligueuse enragée, qui fut tout étonnée de le voir entrer chez elle, sa grande ennemie, sans suite et comme un bon neveu qui viendrait lui faire une visite de fête ou de jour de l'an. « Eh bien, lui demanda-t-elle après l'avoir fait asseoir, que venez-vous donc faire ici ? » « Ma foi, dit Henri, vous aviez autrefois de si bonnes confitures que l'eau m'en est venue à la bouche et que je viens vous demander si vous en avez toujours. » « Ah, je comprends, mon neveu, vous voulez me prendre en défaut, car à cause de la famine, vous croyez que je n'en ai plus. » « Non, ventre Saint-Gris, répondit le roi, c'est tout simplement que j'ai faim. » « Manon, dit la princesse, faites apporter des confitures d'abricots. » Manon apporta un pot de confitures d'abricots. Madame de Montpensier le décoiffa et, prenant une cuillère, voulut en faire l'essai. C'était l'habitude, à cette époque, de goûter tout ce que l'on présentait au roi. Mais Henri l'arrêta. « Oh, ma tante, dit-il, y pensez-vous ? » « Comment ? Répondit-elle. Ne vous ai-je point assez fait la guerre pour vous être suspecte ? » ?»« Vous ne me l'êtes point, ma tante. » Et, lui prenant le pot des mains, il le mangea sans que l'essai en eût été fait. « Ah ! Répliqua-t-elle, je vois bien, sire, qu'il faut être votre servante. » Et, se jetant à ses genoux, elle lui demanda sa main à baiser. Mais il lui tendit les deux bras et l'embrassa. À propos d'essai, il arriva ceci un autre jour. Le gentilhomme qui servait à boire au roi était fort distrait, de sorte que, lui servant le vin, au lieu de boire l'essai que l'on met dans le couvercle du verre, il but ce qui était dans le verre même. Henri le regarda faire tranquillement. Puis, lorsqu'il eut fini, « Un tel, dit-il, vous auriez au moins dû boire à ma santé, je vous eusse fait raison. »